Pour rebondir juste sur cette dernière idée de, que tu exposais, selon laquelle les sociétés véritablement démocratiques en fait, finalement, assumeraient cette distinction entre les dominants et les dominés. Moi, je trouve ça un peu... Alors bon, démocratique, bon, c'est un mot qui, je pense, ne veut plus rien dire du tout. Mais peut-être que l'idéal, ce vers quoi il faudrait tendre, c'est véritablement l'égalité. Alors, pas l'égalité en droit, l'égalité. Et comme peut-être le théorise si bien Jacques Rancière, qui lui, dans toute une partie de sa philosophie, explique un peu enfin, cette idée d'égalité. Voilà, donc dominant, la césure, assumer la césure dominant-dominé ne me paraît pas, personnellement, en soi, un objectif à atteindre, mais plutôt celui de l'égalité entre les individus. On en est loin, certes, mais ça me semble un objectif un peu plus intéressant. Après, il y a beaucoup de choses à dire et je ne vais pas du tout monopoliser la parole. Comment vous voulez qu'on organise on fait un débat là maintenant ou on lance ouais. Oui. Un quart d'heure, voilà, peut-être pour si vous avez des questions dans la salle. Oui, monsieur, peut-être que l'idéal serait de se présenter comme ça.
Je suis Olivier Gaillot, je suis maître de conférence à Paris Dauphine. Merci pour vos exposés. J'ai une question assez générale sur la comparaison entre la France et les autres pays. Est-ce que, disons, les pays qui ont en réalité une politique proche du nôtre, on pourrait imaginer par exemple des pays proches en Europe occidentale, est-ce qu'il y a des pays dans lesquels ce genre de phénomènes qu'on a décrit ici, qui sont négatifs, qui vont vers plus de répression, plus de tribunaux d'exception, ne se produisent pas ou se produisent moins. Donc, ce qu'il y a derrière ma question, c'est quelles sont les tendances de fond, les tendances contre lesquelles on ne peut pas vraiment lutter. Il me semble que vous en avez évoqué quelques-unes. C'est par exemple le fait que quand on a peur, on a tendance à prendre des moins bonnes décisions. Le fait que quand on ne s'identifie pas, je me perçois comme distant d'un musulman, donc je suis plus... prompt à être sévère envers lui. Des choses comme ça, on peut imaginer que ça se produit un peu partout, parce que c'est, pour être très caricatural dans la nature humaine, notre ami philosophe va être fâché pour moi. Mais j'imagine aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas des tendances de fond. J'imagine des contre-arguments qui peuvent marcher dans certaines situations. Donc peut-être qu'en France, on s'y prend mal pour contre-argumenter et peut-être qu'on pourrait faire mieux. Donc c'est ça qui est derrière ma question de comparaison avec les autres pays.
Qu'est-ce que vous donnez ça, tu vois ?
Moi, sur la comparaison avec les autres pays, moi, j'avais regardé sur le passé répressif, le passé antiterroriste des pays de l'Union. Et ce qu'on voit très bien, c'est qu'il y a des pays ben, comme l'Allemagne, par exemple, comme l'Espagne, comme l'Italie, qui ont un passé antiterroriste pas similaire au nôtre, évidemment, mais où il y avait déjà, avant toute cette radicalisation du terrorisme islamiste, des législations antiterroristes. Donc, de très nombreux pays, en réalité, avaient déjà des dispositifs d'exception dans leur législation ou l'avaient mis en place contre des ennemis intérieurs. Ça va être les Brigades Rouges en Italie, ça va être la RAF en Allemagne, ça va être... Donc chaque pays a eu ses ennemis intérieurs contre lesquels... On peut penser aux États-Unis aussi, les assassinats de chefs des Black Panthers, notamment. Enfin, il y a toujours eu des dispositifs d'exception mobilisés contre des ennemis intérieurs dans tous les pays. À ça se surajoutent des phénomènes de circulation entre les différents pays ou des phénomènes de mimétisme répressif. Chaque pays va un peu se regarder, les pays vont se regarder les uns les autres et vont s'emprunter des dispositifs répressifs, ce qui crée là aussi, à terme, des formes d'uniformisation. Et puis aujourd'hui, en matière d'antiterrorisme, il y a une uniformisation par l'Union européenne, c'est-à-dire une uniformisation aussi par le haut, avec une forme d'imposition des législations antiterroristes. Ce qui fait que, par exemple, au sein de l'Union aujourd'hui, vous avez des pays qui avaient des traditions très fortes répressives, avec des dispositifs déjà préexistants, et des pays comme les pays du Nord, qui n'avaient pas de dispositions forcément antiterroristes, qui n'en voulaient pas forcément non plus, et qui ont été, on les a incités aussi à mettre en place des dispositifs. Donc finalement, moi je dirais qu'il y a un processus malheureusement inéluctable d'uniformisation, et plutôt d'imitation et de mimétisme. Mais c'est mon pessimisme naturel.
Humain.
Non, non, non. Oui.
Bonjour, je m'appelle Yasmina, je suis venue parce que le thème m'intéressait. En fait, je vous fais part d'un sentiment personnel que je n'ai jamais exposé en fait. Il me semble, alors peut-être que j'étais très accaparée, occupée par quelque chose, mais à l'époque où le terme est vraiment apparu, on en a très peu discuté justement, c'est ça mon point, c'est qu'il me semble que personne, mais peut-être je ne me trompe pas, il me semble que personne n'en a parlé, dans la gauche, dans la droite, qu'on n'a pas du tout remis en cause ce terme de terroriste dont on savait, enfin je pense pour beaucoup de gens ici, en tout cas moi je l'ai pensé tout de suite, je me suis dit ça va être utilisé, pas seulement pour le terrorisme islamique, mais pour les mouvements sociaux. Enfin, ça, je pense que quand on est dans une tradition de gauche, on ne peut que penser ça. Alors, est-ce que je me suis trompée? En fait, il y a eu des gens pour s'exprimer dans la gauche, pour en parler. Moi, j'ai l'impression que le terme n'a pas du tout été remis en cause au moment où il est apparu. Et que donc, peut-être qu'il y a une complicité d'une certaine gauche pour se dire, bah, c'est très bien, c'est un mot valise, et on pourra y mettre qui on veut quand même, on se reprendra. Voilà, je suis peut-être très mauvais esprit, mais je me demande de...
Tu vas répondre.
Le mot terrorisme est ancien déjà, ça c'est ce qu'on peut dire, et qu'il y a toujours eu malgré tout des réflexions sur qu'est-ce que c'est le terrorisme. Et que quand on a mis en place en France la première législation antiterroriste, donc on est en 1986, on se pose quand même la question de savoir si on va le définir ou pas. Est-ce qu'on le définit? Parce que le définir, c'était quand même s'assurer d'une certaine délimitation des cibles. Le choix qui a été fait, assumé, était de ne pas définir le terrorisme. Ou de le définir par ses effets, et notamment deux, la terreur et l'intimidation. Donc ce sont par les effets produits et non par la nature de l'acte ou le profil des terroristes, etc., que le terrorisme a été défini dans la loi à des fins d'élargissement du filet pénal, du filet policier, etc. En tout cas, c'est mon point de vue.
Je pense que il y a là une question fondamentale et que les juristes connaissent bien. C'est que finalement le texte de droit le mieux cadré, le mieux limité, c'est celui qui propose des définitions précises, hein. Moi je voudrais dire quand même le terrain sur lequel je me situe et notamment quand même ce que en tant qu'historienne j'ai pu tirer de mon travail sur la période de la guerre d'indépendance algérienne. Je pense qu'il faut raisonner en termes de continuum, parce que si moi je pense que nous sommes en démocratie et que si je parle d'un pays que je connais un petit peu pour y aller, voilà, en tant qu'historienne, je sais ce que c'est qu'être historienne dans un pays démocratique ou aller dans d'autres pays du monde où vous ne seriez même pas assis à cette tribune d'ailleurs. Donc moi je pense qu'il faut raisonner en termes de continuum, c'est-à-dire qu'il y a un régime républicain défini par des idéaux et des principes qui présentent des garanties pour tout un chacun d'entre nous. Et puis il y a cette exception, et la question c'est jusqu'où on va et comment on avance et quelle est la place que prend l'exception et comment elle s'étend. Et c'est ce que j'ai voulu montrer dans mon intervention. Le danger c'est l'extension de l'exception. Et le flou des catégories sert l'extension. Des notions comme le suspect, la dangerosité, ce sont des notions vagues. Pour le terrorisme, à la fois on n'a pas de définition et on en a beaucoup, hein, donc c'est pas moi qui vais vous en bricoler une. En revanche, on peut dire que ne pas proposer de définition dans le droit, c'est volontairement prendre un risque. Hein. Voilà, c'est se donner du point de vue gouvernemental de la souplesse, c'est du point de vue de la défense des libertés, prendre un risque. Donc, voilà. Deuxième chose que je voudrais dire quand même, et qui se pose à travers la guerre d'indépendance algérienne que j'ai présentée, et que pose cette question de l'exception, c'est est-ce qu'il nous faut du droit, pourquoi il en faut et quel droit, hein? Parce que je vais reprendre l'exemple que j'ai mentionné trop rapidement dans mon intervention, qui est celui des centres de tri et de transit dans lesquels l'armée pouvait interner ses suspects pendant la guerre d'indépendance algérienne. C'est la controverse autour de cette décision de subdélégation que je vous ai projetée rapidement. Hein. Parce que, évidemment, ce que disent les autorités civiles, type ministre résident en Algérie, IGAM et préfet à ce moment-là, c'est que la mesure a pour but de contrôler les actes des militaires. C'est-à-dire qu'en les autorisant à signer des arrêtés d'assignation à résidence pour leurs suspects dans des lieux qu'ils auront sous contrôle, on les oblige à produire des arrêtés avec des noms dessus et à déclarer des lieux de détention. Donc c'est présenté comme une mesure de contrôle. Hein ? Sauf que quand on regarde ce qui se passe dans les faits, on est en réalité, ou ce qui s'est passé en tout cas dans ce contexte-là, dans une logique de fuite en avant. C'est-à-dire qu'en fait, les militaires ont
toujours conserver des lieux de détention secrets et toujours conserver entre leurs mains des individus sans le déclarer nulle part. Bon. Donc la question pour moi, c'est à quoi ça sert le droit, hein? Et est-ce qu'il en faut? Et on peut aller très loin, je pense, parce qu'on fait pas mal de journées d'études et de colloques avec Vanessa en ce moment, toutes les deux. On peut aller très loin et dire, voilà, comme l'a souligné un intervenant dans un colloque qu'on disait récemment, eh ben, est-ce qu'il faut réglementer les pratiques d'interrogatoire? Et donc, du coup, dire que l'interrogatoire musclé est autorisé à condition que telle et telle pratique ne seront pas autorisées. Ça, ce sont des questions, pardonnez-moi, je pense que tout le monde est convaincu, ça, ce sont des questions graves. Ce sont des questions graves. Et je ne peux pas dire que je n'ai pas d'opinion. J'ai l'impression qu'il faut du droit. Mais lequel, hein, lequel? Et à partir de quand on va considérer qu'on abdique et que la République est elle-même mise en danger par la législation qu'elle a elle-même sécrétée à un moment donné? Pourquoi il faut du droit? Là encore, sur le fondement de la guerre d'indépendance algérienne, je ne suis pas sûre que l'efficacité du droit soit telle qu'on arrive à encadrer toutes les pratiques répressives. Je pense à la torture et l'armée pendant la guerre d'indépendance algérienne. Pourquoi il en fallait quand même? Parce qu'il fallait dire à l'armée où était le pouvoir. Tout l'enjeu des législations d'exception pendant la guerre d'indépendance algérienne, c'est d'essayer de cadrer ce qui se passe sur le terrain. On n'y arrive pas. Jusqu'à la fin, l'armée française pratique la torture en Algérie. Mais c'était quand même important de dire qui a le pouvoir et qui décide. Je veux dire, sinon, on est dans la logique du putsch. Je vais être encore plus précis sur la question de la torture. Si la torture ne reste pas interdite, ça veut dire qu'il revient à celui qui interroge sur le terrain de fixer lui-même ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Hein? Si on reprend la logique de la pratique de la torture pendant la guerre d'indépendance algérienne, les militaires usant d'une pratique qui reste interdite dans le droit prennent de même la responsabilité de redéfinir les normes de ce qui est autorisé, ils pratiquent cela, mais continuer à leur dire que c'est interdit, c'est continuer à leur dire où est le pouvoir et qui décide, et ce ne sont pas eux. Et un des enjeux de la lutte contre la torture pendant la guerre d'Algérie, elle a lieu sous De Gaulle, c'est pas un hasard que ce soit sous De Gaulle, mais l'enjeu il n'est pas humaniste, l'enjeu il est politique, c'est de dire l'armée n'a pas le pouvoir. Hein. Et sur la question des législations d'exception, j'ai choisi toujours de présenter l'assignation à résidence parce que c'est ce que je connais beaucoup et j'ai beaucoup travaillé. Mais j'aurais pu prendre la question des pouvoirs de police, la question des transferts de pouvoirs de police, ou la question des législations d'exception, comme Vanessa l'a dit, dans l'état d'urgence, il y a un transfert de compétences vers les tribunaux militaires, et de la même façon que pour l'assignation résidence, il y a une espèce d'engrenage qui fait qu'à la fin, on arrive à une profusion de juridictions d'exception. Bon. Mais le fait que le droit continue de dire ce qui est autorisé et interdit, c'est fondamental parce que ça nous dit qui a légitimement le pouvoir. Et ce n'est pas à l'armée, en tout cas dans le contexte de la guerre d'indépendance algérienne, c'est ça. Je dis ça aussi en pensant à la question des comparaisons internationales. Il y a un texte d'un juge de l'antiterrorisme italien qui expliquait aussi le mécanisme pervers mis en œuvre par l'existence de forces spéciales chargées de la lutte contre le terrorisme, qui revient à ce que Vanessa décrivait sur la Cour de sûreté de l'État. Si la menace cesse, ces forces-là sont menacées de dissolution. Donc il faut pour elles que la menace continue d'exister, d'où les liaisons dangereuses que l'on rencontre tout le temps entre services spéciaux chargés de lutter contre le terrorisme et les groupes terroristes eux-mêmes. Ce sont des problématiques très connu, hein. Dans quelle mesure, pour prendre l'exemple de l'Italie et des Brigades Rouges, dans quelle mesure elles n'ont pas été un moment elles-mêmes encouragées et manipulées par les services spéciaux pour aller plus loin, parce que ça permettait à ces services de continuer d'exercer, de continuer d'exister, et au pouvoir italien de continuer de développer tout un arsenal. Voilà. Donc pour moi la question, fondamental qui nous intéresse ici, à mon avis, c'est effectivement L'exception est-elle nécessaire? Quand est-elle nécessaire? Jusqu'où on peut la tolérer? Quel garde-fou on met pour continuer de dire qu'on est dans un régime républicain et que nos libertés ne sont pas menacées au quotidien? Et dans tout ça, est-ce qu'il faut du droit? Pourquoi il faut du droit et à quoi ça sert? Quand même, ce sont ces questions-là sur le fond qui me semblent importantes.
Merci. Il y avait deux questions. Peut-être qu'on va en prendre encore une. Alors, c'était vous dans l'ordre. C'était vous, monsieur, oui.
Dans l'ordre chronologique. C'est assez courte. Alors, donc, c'est une question principalement pour les deux premières conférences. Je me demandais, en fait, au sujet de l'extension des cibles. Si vous voyez en fait cette extension comme une sorte de logique interne au droit, c'est-à-dire le droit se créer des outils qui sont ensuite présents et sont de fait utilisés par les acteurs, ou s'il existe aussi dans, notamment par exemple dans les débats parlementaires peut-être, des témoignages, des traces d'une volonté politique qui envisagerait dès le départ l'extension des cibles de la juridiction d'exception. Qui ne nous paraît pas, enfin, en tout cas dans les débats parlementaires que j'ai vus sur le dernier état d'urgence, qui semblait plutôt se référer aux circonstances présentes et moins envisager, disons, de manière volontaire l'extension possible de ces mesures.
On peut dire les deux. C'est-à-dire qu'il y a les deux. C'est-à-dire à la fois il y a une logique qui est propre à l'exception qui dure. Et là, je vais vous prendre un exemple. Par exemple, un exemple que je prends toujours, parce qu'il est très illustratif, il me semble, c'est la loi de dissolution des organisations de 1936. C'est une loi qui a été prise par la gauche socialiste au pouvoir pour lutter contre l'extrême droite factieuse. Et donc, pour dissoudre l'extrême droite factieuse. 3 ans plus tard, c'est le Parti communiste français qui est dissous, dans l'extrême gauche. Exemple type de législation répressive prise contre l'extrême droite qui se retourne contre l'extrême gauche. Puis contre le Parti communiste algérien, puis contre les manifestants de mai 68, les Mao, la LCR et les indépendantistes, etc. Donc là, on peut pas supputer quand même que le Parti socialiste de 36, après j'en sais rien, je peux me tromper, ait envisagé sa propre auto-répression, notre propre répression de la gauche. Mais il y a des cas où l'extension des cibles est envisagée. Dans le cas de la Cour de sûreté de l'État, le général de Gaulle ne le dira pas comme ça, mais il dira officieusement à Alain Perfit, qui est son conseiller et qui a publié ses mémoires, il faut qu'elle dure parce que la subversion peut venir d'on ne sait où, de l'Est, etc. Et je pense qu'à l'époque, en 63, De Gaulle n'anticipe pas mai 68, mais parle des communistes, des syndicalistes, etc. Donc il y a une forme d'anticipation des cibles politiques par l'exécutif, ça j'en suis bien certaine. Et le pire de tout, c'est que les parlementaires qui votent ces législations posent toujours cette question de l'extension des cibles. Elle est toujours présente. Par exemple, dans le débat sur la Cour de sûreté de l'État, il y a toujours cette question, est-ce que cette Cour de sûreté de l'État ne va pas finir par toucher des militants, des paysans, etc. Et ils se battent sur des termes pour amender, rajouter des termes qui excluent par exemple les paysans, ou les militants, ou les syndicalistes, ça ne marche pas. Mais en tout cas, ils essaient. Donc cette question, elle est au cœur des débats aussi. Donc, moi, je dirais les deux. Il y a une logique interne, propre, et à la fois une volonté politique, dans certains cas.
Je dirais les deux aussi. La question de la logique interne, à mon avis, elle est dans le flou des catégories. C'est-à-dire que, à partir du moment où on rédige des textes de portée générale, avec des notions comme dangerosité pour l'ordre public, effectivement, on ne peut pas savoir ensuite comment ça va s'appliquer. La question que je me pose quand même, c'est notamment sur l'état d'urgence. Je pense qu'il n'était pas possible au gouvernement, pour des raisons politiques de toute façon, de faire une loi spécialement pour l'Algérie, de faire une loi contre le FLN, ça n'avait pas de sens, les partisans de l'indépendance, ça dépensait largement le FLN. Donc je pense que c'est vraiment sur cette question de la définition des catégories qu'il y a une possibilité d'extension, et là où les juristes peuvent agir. À mon avis, sur la définition des catégories, comment les cerner suffisamment ou pas. Sur la volonté politique envisagée dès le départ, Ce qui est clair en tout cas, et c'est ce que je voulais montrer avec les citations de députés opposés à l'état d'urgence en 55 que je voulais montrer, c'est que ceux qui se sentent potentiellement menacés au moment où ils votaient le texte le disent. Les communistes disent « demain ça peut être contre nous ». Bon. Mais il y a quand même quelque chose, moi, qui me frappe comme historienne, c'est qu'il faut toujours avoir en tête que nous n'avons, aucun d'entre nous n'a une capacité à prévoir l'avenir et à prévoir les conjonctures qui peuvent se produire. Moi, personnellement, ce qui m'a fait le plus peur, c'est pas du tout quelque chose qui a été beaucoup dit, enfin, en tout cas, je vais peut-être pas bien écouter, mais ce qui m'a fait le plus peur dans la déclaration de l'état d'urgence et surtout dans ses prolongations après 2015, c'était la perspective des élections présidentielles et d'envisager l'hypothèse que Marine Le Pen soit élue avec l'état d'urgence. Je veux dire, là, pour moi, il y a eu une irresponsabilité du gouvernement qui a fait le choix à un moment donné d'une prolongation qui englobait la période des élections présidentielles, où là l'extension des cibles, effectivement Vanessa vous disait les socialistes n'avaient pas prévu, etc. Mais quel usage aurait été fait de l'état d'urgence par un pouvoir issu de l'extrême droite? Voilà, donc je pense qu'il faut, en fait la prudence elle est aussi liée pour moi à l'incapacité à prévoir l'avenir, y compris en 55, personne n'imaginait qu'un jour l'état d'urgence serait contre les partisans de l'Algérie française, c'était hors de portée d'imaginer ça. Donc je pense qu'il faut faire vraiment extrêmement attention à ça, et c'est ce qui doit nous rendre vigilants sur ces questions d'exception.
Merci beaucoup. Juste sur la prolongation, l'avant-dernière prolongation, elle a été justifiée en partie par la tenue des élections, c'est-à-dire parce qu'il y avait des élections, oui. Il fallait pouvoir assurer la sécurité de nos concitoyens qui allaient exercer oui. Leur devoir, leur droit de vote. Et donc, ça a été un des arguments pour reconduire l'état d'urgence.
Mais au mépris de l'incertitude du résultat, quand même.
Vous avez intégré Victor Le Pen.
Pardon ?
Je me soumets aux ordres de l'organisatrice ici présente. Et donc, n'ayez pas peur parce qu'après la petite pause, il y a justement une heure de débat. Donc, on pourra, une table ronde, vous aurez l'occasion de poser des questions qui restent en suspens. Merci beaucoup à toutes et à tous.